Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Nous souhaitons la bienvenue ce matin à cette cinquième partie. Il reste deux messages à cette série. N'aie pas peur, comment vaincre les craintes, angoisses et phobies modernes. Nous avons chaque semaine adressé plusieurs de ces différents aspects, différentes peurs qui sont très présentes, qu'on a vues dans notre clip d'intro, qui sont très présentes dans notre vie moderne. On veut vous souhaiter la bienvenue à vous ici, mais aussi aux dizaines de milliers qui vont entendre ce message par l'Internet, par la radio, mais aussi par l'Internet. Tous les messages de la série sont gratuitement disponibles sur le site Internet. Tout ce que vous voyez à l'écran est aussi disponible pour être téléchargé. Et nous avons des gens d'une quinzaine de pays partout qui nous disent suivre ces messages, nous envoient des courriels qui téléchargent et tout ça. Et j'ai été partout dans la francophonie, c'est souvent au fil des années. Je vais partager différentes personnes, c'est souvent touchant, des gens partout dans le monde qui écoutent, mais aussi à travers le Canada. Récemment, on a été très touchés de voir beaucoup de francophones hors Québec, en Ontario, au Manitoba, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, qui suivent les messages. Alors, je veux les saluer ce matin, tous nos amis francophones dans le Canada, et j'aimerais que vous leur souhaitiez, saluez-les en les applaudissant, les francophones canadiens à travers le Canada. Et ce matin, nous allons adresser une peur particulière, comment vaincre les peurs, angoisses et phobies modernes. Et notre thème ce matin, c'est la peur des églises, la peur de la religion et même ultimement la peur de Dieu. Il y a beaucoup de gens au Québec, il y a des millions de personnes au Québec qui, parce que meurtries dans le passé par l'Église, historiquement, de génération en génération, où leurs parents ou leurs grands-parents ou dans leur propre expérience personnelle ont vécu des événements, ont vécu des choses, ont vécu des traumatismes, ont vécu des déceptions qui a fait que maintenant, lorsque vous leur parlez d'Église, ils ont peur de l'Église, ils ont peur de se faire embarquer, ils ont peur de ce qui est religion, ils ont peur ultimement de Dieu. Ils ont eu une vision, une conception de Dieu, une présentation de Dieu qui leur fait peur. Il y a des gens que c'est de génération en génération, des millions de personnes au Québec dont les parents allaient à l'église, eux n'y vont plus du tout et sont réfractaires, sont méfiants. Je m'adresse à des gens qui sont ici ce matin, qui vont entendre ce message, mais aussi à chacun d'entre nous qui avons des gens dans notre entourage que nous voulons inviter à l'église ou qu'on veut leur parler de Dieu et tu sens une peur, ils ont peur de tout ce qui est religion, ils ont peur ultimement même de Dieu. Je parle aussi à des gens, et je sais qu'il y en a dans ce lieu ce matin, et beaucoup qui vont entendre l'émission par l'Internet, qui ont souffert à l'intérieur de l'Église, qu'elles soient d'un groupement chrétien ou même à l'intérieur de l'Église évangélique. Ils ont vécu des expériences, ont été déçus, se sont donnés et ont été trahis ou ont vécu de l'abus spirituel. Et là, se retrouvent maintenant dans un endroit où ils se disent est-ce que je veux me réimpliquer, est-ce que je veux revenir. Vous savez, il y a des gens qui ont quitté les églises et ils ont peur de revenir. Il y a des gens il y a des jeunes peut-être qui sont ici qui vont entendre ce message, qui peuvent même avoir peur de Dieu, avoir peur de si je donne ma vie à Dieu, si je m'abandonne à Dieu, est-ce que je vais perdre quelque chose? Est-ce que je vais perdre ma vie? Est-ce que je vais perdre ce que moi je voudrais faire? Et toutes sortes de concepts de peur de Dieu. Et on va l'adresser ce matin à travers un texte ensemble. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Nous allons lire le premier miracle de Jésus, qui va nous donner un enseignement là-dessus. Mais j'aimerais, permettez-moi, ce matin, alors que je reviens c'est très rare, j'étais deux dimanches où j'ai pas prêché à Nouvelle-Vie. On a eu un merveilleux dimanche avec Christine Kane par la suite. Voyage en Haïti, quelques jours de vacances. Et là, je reviens, je suis content d'être à la maison. Et juste en revenant, jeudi, j'étais revenu et puis je suis revenu. Puis juste en une semaine ou deux à Nouvelle-Vie, toutes les belles choses qui prennent place. Permettez-moi ceci, je comprends que des gens puissent avoir peur de l'Église, puissent même avoir des inquiétudes, puissent être intimidés ou avoir peur ou être réfractaires à l'Église. Mais laissez-moi vous dire que l'Église, et je vais adresser ces peurs-là dans quelques instants, mais est-ce que je peux vous dire à quel point, pour ceux qui la connaissent, je ne parle pas de bâtiment, je parle des personnes. Pour ceux qui la connaissent, pour ceux qui connaissent l'Église chrétienne, je reviens de voyage et j'apprends juste dans les dernières semaines toutes les belles choses qui prennent place, toutes les œuvres humanitaires et l'action d'Action Nouvelle Vie et toutes sortes de belles choses qui prennent place et des gens qui se donnent. Est-ce que j'ai le droit de dire à quel point je trouve l'Église chrétienne belle, à quel point l'Église elle est belle, à quel point c'est magnifique de voir Elle est belle non à cause de ses bâtiments ou de ses structures, elle est belle à cause de ses pierres vivantes, à cause des personnes qui font ces efforts, qui se donnent, tous ces bénévoles, tous ces gens qui se donnent à nourrir les nécessiteux, à aider nos enfants, à être avec nos jeunes dans tous les différents ministères et des gens qui se donnent. Voulez-vous dire à la personne près de vous, l'Église de Jésus est belle? Dites ça à quelqu'un près de vous. Et dites à la personne de l'autre côté, l'Église de Jésus est belle parce que tu es dedans. Dites ça à la personne à côté de vous. Et moi, je veux saluer ce matin. Il peut y avoir plein de choses à améliorer, plein de choses à changer, et il y en a, et plein de choses à rendre meilleures. Mais je veux saluer ce matin. Moi, j'apprécie, je crois que c'est important d'apprécier ceux qui font un effort. Pouvez-vous dire amen? Et j'aime commencer les messages en vous voyant sourire. Je suis toujours nerveux lorsque ça fait 15 minutes que je parle, il y a personne, il y a encore des gens qui n'ont pas souri. Alors, j'aime commencer un message en vous voyant sourire. Alors, j'ai un petit clip d'une minute qui m'a impressionné de deux personnes qui font un effort. Le premier va aller à la pêche d'une manière que vous n'avez jamais vu personne aller à la pêche avant. Ceux d'entre vous qui, je dis aller à la pêche, vous voyez dans une chaloupe, lancer votre, vous savez c'est quoi la pêche? Tu lances ta ligne, tu te fais manger par le maringouin, c'est magnifique. Vous allez voir un gars pêcher et vous allez voir une jeune fille attraper une balle de baseball. Moi, je dis que c'est important d'apprécier ceux qui font un effort. On regarde ensemble. Faut apprécier et admirer ceux qui font un effort. C'est une manière différente d'aller à la pêche. Bien identifié qu'il y avait du poisson. Le pêcheur est dans l'hélicoptère. Et c'est ce poisson-là qui va aller pêcher. Et voici l'effort. Il faut apprécier un gars qui fait un effort. Vous pouvez applaudir un gars qui fait un effort. Ça, c'est... Mais il y a une jeune fille qui va faire encore mieux. Une jeune fille qui va faire encore mieux.
Three balls and a strike to count to Brent Johnson. One out, top of the seventh inning. Fresno 2, Tacoma 1. Santos in a jam. Johnson, his first year at AAA. From the set, he deals. That swung on and driven deep down the left field line toward the corner, and this ball is going to be... That's the ball girl. Jake Walden, left field, can't believe it. And look, she shows him up. She just sort of tosses him the ball, saying, take that, Jake. I don't see you making the effort. Alfonso, the catcher, he can't believe it. Let's look at that replay. Oh, my. What an amazing play. And now look at her, sitting there saying, no big deal.
Il faut apprécier quelqu'un qui fait un effort, et j'apprécie tous ceux qui font un effort pour la cause de Christ. Applaudissez ceux qui le font pour l'œuvre de Dieu. Allez-y, applaudissez à tout rompre ceux qui se donnent pour le Seigneur. Ce matin, nous allons regarder ensemble à notre texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 2. Et nous allons regarder ensemble, à traiter en particulier de ce que j'appelle le thème de la peur des églises, la peur de la religion, la peur de Dieu pour vous et aussi pour des gens autour de vous. Quoi dire, quoi répondre, comment on peut vaincre cette peur? Et nous allons regarder ensemble à un texte magnifique qui est le premier miracle de Jésus. J'espère que vous avez amené votre Bible. Ne venez pas, si vous êtes un chrétien d'église, vous venez pas à l'église sans votre Bible. Allez chercher votre Bible le matin, arrivez fièrement, votre Bible à la main pour voir la parole de Dieu pour vous-même. Si vous n'avez pas votre Bible, le texte va apparaître à l'écran. Et nous lisons ensemble Jean chapitre 2 et les versets 1 à 11. Trois jours après, il y eut une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Mais sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Et puisez maintenant, leur dit-il. » Et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. toi, tu as gardé le meilleur vin pour jusqu'à présent ou pour la fin. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. J'aimerais vous proposer comment vaincre la peur de la religion des églises et même la peur de Dieu. Trois étapes, trois clés, très simples, très pratiques pour vous, mais aussi pour partager avec les gens autour de vous qui peuvent être à distance avec cette crainte. Comment vaincre la peur, la religion, les églises, la peur de la religion des églises ou même la peur de Dieu. Trois étapes. Il faut une compréhension spirituelle et une révélation. Il faut une confrontation sincère avec le religieux. Et il faut un cœur qui sait reconnaître. J'aimerais que vous disiez à quelqu'un près de vous avec un sourire, mais dites à quelqu'un près de vous, en as-tu assez de la religion Jésus aussi? Dites ça à quelqu'un près de vous. Nous allons vaincre et commencer et trouver le sentier dans la victoire contre la peur de l'Église ou la peur de la religion, même la peur de Dieu, en confrontant et en remplaçant les faux concepts, paradigmes et perception de ce qu'est la crainte de Dieu. La première étape, c'est d'avoir un renouvellement, une révélation, une saine compréhension de ce qu'est véritablement, bibliquement, la véritable crainte du Seigneur. Il faut une compréhension spirituelle et une révélation. La crainte de Dieu n'est pas une espèce de l'émotion, là, les yeux qui te sortent de la tête, les peurs de terreur. Ce n'est pas le souffle coupé que ceux d'entre vous, souvenez-vous de lorsque tu as peur de quelque chose. Ce n'est pas non plus ce joug lourd religieux où est-ce que tu as peur de Dieu, où tu marches à chaque jour, mais c'est pas grave si tu as assez quand même bien fait hier. Ça recommence aujourd'hui et Dieu ne sera jamais content de toi. Et n'importe quand, il peut arriver et tu peux te faire frapper. Il y a des générations qui ont grandi là-dedans, dans la province de Québec, ou avec espèce de vision du Dieu vengeur. Puis toi, tu marches avec peur. Tu sais jamais est-ce qu'il va t'arriver. Et les représentants religieux sont des espèces de policiers, de gestapo religieux qui surveillent et vérifient s'ils sont capables de te tenir. Toutes sortes de visions de Dieu et toutes sortes de visions de la peur. J'aimerais vous dire que la crainte de Dieu, ce n'est pas ce joug-là lourd. Lorsque Jésus a utilisé l'expression d'un joug, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Je vais vous donner du repos, car mon joug est léger. Et il utilisait une expression qui pour eux voulait dire beaucoup. Lorsqu'on dit joug, nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans le domaine, dans le milieu d'agriculture, dans le milieu où ils avaient du bétail, ils savaient très bien, ils avaient tout de suite l'image de cet objet de bois, ce joug, où tu mettais les deux animaux. Ils devaient être, lorsqu'ils se mettaient sur le même joug, ils allaient ensemble. Et ce qui était incapable, ce qui était inaccessible pour un, lorsque l'autre arrivait, deux animaux ensemble travaillaient sous le même joug, ils pouvaient porter des charges, ils pouvaient avancer. C'est comme ça que le travail se faisait. Et Jésus dit littéralement, si tu viens à moi, si tu t'abandonnes à chaque jour ta vie à moi, moi je viens, je vais être avec toi, on va être sous un même joug, je vais porter avec toi ta charge, ce qui t'était impossible, ce qui t'était inaccessible, ce qui était trop lourd pour toi, tu ne le porteras plus seul, je vais le porter avec toi et je vais te donner du repos. J'aimerais vous dire que la crainte de Dieu, ce n'est pas cette terreur, ce n'est pas ce christianisme légalisme froid qui juge les autres et qui s'est mis une série de règlements pour pouvoir les prendre et pouvoir élever certains au-dessus de d'autres. La crainte de Dieu, là, dans sa forme la plus simple et la plus pure, la crainte de Dieu, c'est simplement une compréhension de qui Dieu est en relation avec nous. C'est une compréhension de « il est Dieu ». Il est Dieu, je suis son enfant. C'est une révérence. C'est une attitude de révérence, une attitude de dépendance, une attitude de respect, une attitude de consultation envers Dieu, une attitude d'admiration envers lui. Et très souvent, partout à travers les Écritures, on va regarder seulement un ou deux, mais partout à travers les Écritures, il y a aussi cette révélation très, très importante. Que la crainte de Dieu n'est pas synonyme de tristesse ou synonyme d'une vie qui est serrée, qui est apeurée. Au contraire, vous allez trouver souvent dans les Écritures, dans une espèce d'osmose surnaturelle, le thème de la crainte de Dieu qui produit la joie dans nos vies. Que lorsque tu crains Dieu, tu comprends c'est quoi craindre Dieu, tu ne crains plus rien d'autre. Et que celui qui rejette la crainte de Dieu va vivre une vie de peur et de crainte. Il y a plusieurs versets où la crainte et la joie est ensemble. Comme le psaume 2, versets 11 et 12. « Servez l'Éternel dans la crainte de Dieu et réjouissez-vous avec tremblement. Embrassez, c'est très affectueux. C'est pas du tout religieux, tiens-toi à distance et fais tes 7 rituels. C'est une scène très, très touchante. C'est littéralement embrasser et prendre dans les mains. Et c'est, pour nous autres, au Québec, ça prend place dans nos familles, puis tout ça. Lorsqu'on va, j'étais à la conférence en Haïti, c'est tellement touchant. La réunion finie et il y a littéralement 300 frères qui viennent t'embrasser en même temps. Ça te fait tout le monde, on est si collé, on est tous là, ça te prend. Et moi, vous savez, là, j'ai chaud ici, alors imaginez là-bas, il faisait 39 le matin lorsqu'on se levait, puis on était dans une salle avec 1400 personnes, aucune climatisée, rien. À la fin de la réunion, il y a une journée qu'il y a un frère qui est arrivé, puis il a dit, j'avais une chemise blanche. Il a dit, bonne réunion, frère, puis il a fait comme ça, puis ça a fait, ça allait éclabousser. Mais ça ne les empêchait pas. Les frères, je disais, excusez-moi, je suis tout mouillé. Moi, non, pas! Et non, ça. Et le texte ici, c'est parlant de notre relation avec Dieu, il dit littéralement qu'il y a c'est ça la crainte de Dieu, c'est que il y a cette dimension-là de respect, dimension-là de révérence, mais tu embrasses le Fils. Tu as du respect et de l'affection pour le Fils de Dieu, mais tu as du respect et tu as une sainte crainte, mais tu as aussi une affection profonde, il y a un amour qui est là. Tu te réjouis dans la crainte et tu te réjouis, car sans lui, embrassez le Fils. Car sans lui, vous auriez péri dans vos voies. Heureux et joyeux, tous ceux qui se confient en lui. Notre crainte de Dieu est basée sur notre reconnaissance de qui Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous. Si j'avais été laissé à mes voies, j'aurais péri, j'aurais été perdu, mais il est venu me racheter. Il est un roi, mais il est venu me changer, me racheter. Alors je me prosterne devant lui, j'ai une révérence, mais en même temps, je l'aime tellement. Est-ce que vous comprenez? Ce portrait-là, il est dans le Nouveau Testament, tout de suite après la résurrection, et la diapositive, tout de suite après la résurrection, le Christ est ressuscité, l'ange leur dit, ne le cherchez pas parmi les morts, il est vivant. Et les femmes, verset 8, s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte, mais une grande joie. Crainte, mais une grande joie. Elles coururent porter la bonne nouvelle aux disciples, et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent, embrasser le Fils. Saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Crainte, mais une grande joie. Une crainte parce que le tombeau est vide. Il n'est pas seulement un rabbin. Il n'est pas seulement un enseignant. Il n'est pas seulement un bon maître. Il n'est pas seulement un bon philosophe. Il était vraiment mort et il est ressuscité. Il est le Fils de Dieu. Il est là devant moi et il est ressuscité pour moi. Alors les deux émotions se mêlent. Je tombe sur mes genoux avec révérence, mais j'embrasse le Fils et je me mets à l'adorer parce que c'est pour moi qu'il est ressuscité. Je l'aime tellement et je suis tellement reconnaissant. Est-ce qu'on peut applaudir avec crainte devant Dieu? La crainte de Dieu, de ce Dieu si grand, ce roi, mais qui est ressuscité et devant qui rien n'est caché. La crainte de Dieu, c'est un sens de révérence que s'il n'est pas, ma vie entière est devant lui. Et ce n'est pas quelque chose qui produit une terreur, mais ça produit pour le cœur qui est humble, pour le cœur qui ne veut rien cacher à Dieu, pour le cœur qui veut marcher droitement. Ça produit un sens de révérence, un sens de sérieux, un sens, je dirais, de respect, de reconnaissance, de révérence, mais aussi un sens de redevabilité. Je vais rendre compte pour ma vie devant Dieu. Je marche avec dans la crainte de Dieu à chaque jour parce que je vais rendre compte devant lui. Et l'auteur aux Hébreux, comme à plusieurs autres endroits, associe le thème de la paix. De la paix, mais avec ce sens que je vais présenter ma vie devant Dieu. Il dit au chapitre 4, verset 11 de Hébreux, la diapo 9, « Empressons-nous d'entrer dans ce repos. » Ça n'entre dans un repos, c'est pas une terreur, c'est pas un jour, mais j'entre dans un repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Il dit littéralement qu'il y a une crainte qui va faire disparaître tous les autres. Que si à chaque jour vous grandissez dans ce sentiment de révérence que je vis ma vie devant Dieu et je ne suis pas parfait, mais il n'y a rien entre moi et lui. Mon cœur lui appartient et je vis ma vie devant Dieu. Il y a toute une assurance qui vient que les autres choses qui pourraient me faire peur vont diminuer, vont s'atténuer. L'Éternel est mon refuge. De qui aurais-je peur? Tu peux rien m'enlever que Dieu m'a donné. Tu ne peux pas me bouger de ma position. Ma vie est dans les mains de Dieu. Tu ne peux pas bouger mes enfants, bouger ma vie. Ma vie est dans les mains de Dieu. J'ai une sainte crainte devant lui. Je suis dans un repos, mais en même temps, dans cette sainte crainte qu'à chaque jour, je sais que ce que personne ne sait, personne ne voit, ce que personne ne verra jamais, ce que je réussirai à cacher à tout le monde, je cache rien pendant une fraction de seconde à lui. Il voit tout et je rendrai compte de ma vie devant lui. Alors ça provoque en moi humilité, ça provoque brisement, ça provoque repentance et ça provoque « Seigneur, je veux vivre une vie agréable devant toi ». Quelqu'un devrait dire oui. Cette dimension-là de la paix, de la crainte de Dieu qui bannit les peurs humaines. Dans Exode chapitre 20, la diapo 10, il a dit de cette façon. Moïse dit au peuple, regardez bien les mots, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte. » Il dit, « Ne vous effrayez pas, mais Dieu est venu pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. C'est au moment où les 10 commandements sont donnés, c'est au moment où la montagne est secouée, les éclairs et le tonnerre, puis c'est tellement impressionnant. Il y a trop une vision au Québec, parmi les cercles évangéliques, d'une vision du bonhomme en haut, le chum, le Seigneur. Jésus, c'est mon chum, c'est mon partner, c'est mon copilote, c'est mon chum. On est bien chum, puis il vient m'aider quand j'ai de la misère. Non, non, non. C'est le Seigneur Dieu, créateur de l'univers, duquel j'étais séparé par mon péché, mais qui est venu mourir sur une croix pour moi, être mon rédempteur. Et sur la montagne, lorsqu'ils ont vu la magnificence de Dieu, il y avait en même temps un sentiment de crainte. Mais Moïse a dit, n'ayez pas, ne vous effrayez pas. Si tu as la crainte de Dieu dans ton cœur, sentiment d'humilité et de dépendance devant lui, tu as un choix. Tu as le choix de t'éloigner ou tu as le choix de la décision de vous approcher de la nuée de Dieu. Je dis aujourd'hui, approchons-nous ensemble du Dieu de miséricorde. Et alors que je le crains, je n'ai plus peur de rien d'autre. Quelqu'un devrait dire amen. Il y a plein de bénéfices dans les Écritures. Il y en a toute une série, je vous en donne quelques-uns ce matin. Il y a toute une série de bénéfices à ceux qui marchent dans une saine, dans une crainte de Dieu, une vision, révélation, compréhension d'une crainte de Dieu biblique et équilibrée. 4 bénéfices de la crainte de Dieu équilibrée et biblique, la diapo 11. Il y a un chemin clair et une connaissance. Tu marches dans la crainte de Dieu, la parole de Dieu nous dit au psaume 25, « Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montrera la voie qu'il doit choisir. » Son âme trouvera de la paix, reposera dans la paix. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et il leur donnera instruction. La crainte de Dieu fait que je consulte Dieu. J'ai peur, dans le bon sens du mot, je n'oserais pas vivre ma vie par mes propres connaissances ou capacités. Je le consulte en toutes choses. J'ai une sainte compréhension. Ma crainte de Dieu est que je sais que ses voies sont au-dessus des miennes. Je suis limité, il est alpha et oméga. Alors je viens à chaque jour pour mes affaires, pour les œuvres de l'Église, pour le futur, pour mes destinées, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon budget, pour vos investissements, pour vos études, pour chaque chose de votre vie, pour vos peines et vos douleurs. J'amène cela à Dieu. Ma crainte de lui, c'est qu'il est tellement au-dessus de moi et il m'aime tellement, il est tellement sagesse. Je lui amène tout cela. Et le Seigneur dit, celui qui me craindra, je vais le diriger dans toutes ses voies. Ma crainte devient une consultation et cette consultation-là m'amène toujours des consolations. Celui qui craint l'Éternel trouvera, le prochain verset, celui qui craint l'Éternel trouvera la compassion de Dieu, comme un père trouve, comme un père envers son enfant, comme un père envers son enfant, une compassion constante du ciel, la diapo 12, le psaume 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et cette compassion devient une confiance. Une confiance et un courage. Proverbe 22, il y a des épines et des pièges sur la voie de l'homme, mais le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu, c'est bénédiction, couronnement et vie. Suivez-moi bien. La crainte de Dieu, c'est que je reconnais qui il est et qui je suis, et comment j'ai besoin de lui, et comment je vais rendre compte pour ma vie devant lui. Et c'est une crainte qui fait que je le consulte. C'est une crainte qui fait que même dans mes imperfections et mes chutes, parfois sur le chemin, c'est tellement magnifique, c'est tellement libérateur. La crainte de Dieu n'exige pas la perfection de nous. Dieu dit, je sais que vous êtes poussière, je sais qu'il a été tentant toutes choses pour secourir ceux qui sont tentés. Et je peux venir à Dieu lorsque, avec arrogance, avec dureté, j'essaie de vivre ma vie comme si Dieu n'existait pas. Comme si je n'aurais pas à lui rendre compte, comme si je pouvais lui cacher quelque chose. Comme si de venir faire un rituel religieux le dimanche matin effaçait le reste de la semaine. Si je viens avec orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux. Antithesmi, le mot grec, la force de Dieu va venir contre toi. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Je suis imparfait, puis des fois sur le chemin, je suis déchiré. Et des fois, j'ai tombé dans un piège. Mais je viens dans la crainte de Dieu. Je viens dans la révérence de Dieu. Et je vais toujours trouver un Père. Je vais toujours trouver sa compassion. Puis il y a une confiance qui va venir en moi, que malgré mes épreuves, malgré mes échecs, sa grâce est plus grande. Et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une crainte qui fait que je le consulte. C'est une crainte qui fait que je suis consolé. C'est une crainte de Dieu. Respect, révérence, reconnaissance, redevabilité, qui fait que je reçois une confiance, une courage, que la bénédiction est pour ceux qui ont la crainte de Dieu, le couronnement et la vie abondante. Et je dirais ceci, c'est aussi, il y a non seulement un chemin, une connaissance, une compassion constante du ciel pour ceux qui craignent Dieu, une confiance et un courage, mais il y a une couronne de contentement. J'ai médité cette semaine cette définition dans le petit Robert du mot contentement. État de celui qui ne désire rien de plus. Rien de mieux que ce qu'il a. Je crois que, dans la mesure où nous grandissons dans la révérence, dans la reconnaissance, dans la magnificence de qui Dieu est, comment il est grand, comment ce qu'il a fait pour moi est extraordinaire, et comment j'ai besoin de lui, comment je le consulte, et ma confiance est en lui, c'est dans la crainte de Dieu que je vais trouver un contentement. Et sans la crainte de Dieu, il y a des milliers de chrétiens qui vivent leur vie, et ils ne sont jamais contentés. Il n'y en a jamais assez. Il y a une satisfaction qu'ils cherchent dans tout excepté Dieu et qu'ils ne trouvent jamais. Et le paradoxe du royaume, c'est qu'il y a partout sur la terre des chrétiens et des leaders et des chrétiens et des millions de chrétiens à travers le monde qui ont infiniment moins que nous et qui semblent beaucoup plus contents, beaucoup plus contentés, beaucoup plus apaisés, beaucoup plus en paix, parce que leur crainte, leur confiance, leur vie, leur abandon et leur recherche et leur poursuite n'est pas dans tout ce qui est autour d'eux, mais est en Dieu. Et il y a un contentement. La parole de Dieu le dit de cette façon, c'est un texte magnifique dans le psaume 34 et le verset 9 à 13. « Venez et voyez combien l'Éternel est bon. Celui qui cherche un refuge en lui est heureux. Craignez l'Éternel, vous son peuple, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Voulez-vous dire avec moi, « Rien ne manque » à ceux qui le craignent. Est-ce que ça veut dire que chaque personne qui le craint est multimilliardaire, il y a tout, non, rien ne manque, est un état de cœur, est un état, une condition, c'est un calme de cœur, c'est une couronne. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? C'est chacun d'entre nous ça. Alors venez, écoutez-moi, et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Lorsqu'on va dans des pays comme Haïti, on est allé cette semaine, on va pour donner. On se donne énormément des réunions du matin au soir avec ses frères tellement précieux, ses pasteurs de partout à travers le pays. Et nous essayons de les bénir, nous essayons de leur donner. Mais ne vous méprenez pas, que ce soit lorsque nous allons en Afrique, en Haïti, à différents pays du monde, partout où nous allons. Oui, nous allons pour donner, mais moi je sais qu'à chaque fois que je vais en Haïti, par exemple, je ne vais pas seulement leur donner, je reçois d'une manière extraordinaire. Parce qu'il y a une étoffe. Et je ne les idéalise pas, je ne les élève pas, je ne veux pas les élever avec prétention, mais il y a une force, il y a un contentement, il y a une joie et un courage dans les serviteurs de Dieu dans certains de ces pays qui ont traversé toutes ces épreuves qui est absolument extraordinaire pour nous. Il m'arrive parfois juste de m'asseoir avec eux, d'écouter leurs témoignages et de voir, t'es assis en Haïti dans un pays où il y a tellement de belles choses, de beauté, de potentiel, mais où il y a aussi des millions de personnes qui vivent dans une pauvreté abjecte. Une photo qui va apparaître à l'écran. Juste pour vous donner, pour moi, les images qui s'entrechoquent dans mon esprit lorsque je pense à Haïti, lorsque je prie pour mes frères et mes amis pasteurs là-bas. L'image en haut à droite, vous voyez Pasteur Mark, moi-même au milieu et Gary Wilkerson. Nous sommes à l'endroit. Nous sommes sur le site de l'école à Petionville le 7 novembre qui s'est effondré, 7 novembre 2008. Il y a 97 enfants enterrés qui sont morts sous nos pieds. Et lorsqu'on est arrivé là-bas, il y a toutes ces scènes en Haïti qui te frappent de pauvreté. Et on a été dans des villages qui ont été totalement submergés par la boue et tout ce qui était là a disparu. Et il y a tellement de... Et la photo du bas, vous voyez un bout de montagne et du toit. Lorsqu'on sort de l'ITF, qui est adjacent au bâtiment d'une église à Port-au-Prince, à Petionville, lorsqu'on sort du bâtiment, c'est ce que tu vois, ce que vous voyez en bas. Tu vois un bout de montagne qui est en pleine ville, qui est juste aux abords de Port-au-Prince. Et sur cette section-là qu'on voit là, qui s'appelle le Mont du Calvaire, qu'ils ont surnommé le Mont du Calvaire, il y a 80 à 100 000 personnes qui vivent là, qui n'ont aucune électricité, n'en ont jamais eu, n'en ont pas. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'école. Il y a des pasteurs qui vont faire leur vie entière essayer de faire le ministère dans cet endroit-là. Et lorsque tu regardes des moments comme en haut, lorsque j'ai mes bras autour des frères là-bas et que tu entends leurs histoires, leurs témoignages, il y a ce paradoxe qu'il y a des histoires de drames et de deuil et de maladies et de morts et de guerres et de pauvreté et de fraude et de choses terribles. Mais certainement, à chaque fois, c'est immanquable. Lorsque tu es avec eux, tu sens leur joie, tu sens leur contentement, tu sens leur courage. Ils n'ont peur de rien. Ils ont la crainte dans leur cœur envers Dieu. Et lorsque l'Éternel est mon refuge, que me fera les hommes? Ce qu'ils ont, personne ne peut leur enlever, parce que c'est Dieu qui leur a donné, et seulement Dieu qui peut le donner. Et ça crée une joie hallucinante. Le pasteur Wilson Charles a des choses qu'il peut te raconter dans son quotidien, mais en même temps, il est contagieux de joie. Et de juste, il est tellement heureux, tellement content, tout est tellement bénissant pour lui. On était à la dernière journée de la conférence. La conférence est finie pour retourner à l'aéroport. On avait fait toutes les réunions, puis il était tellement heureux. Et puis, on était en jean, nous autres avec un chandail à manches courtes, puis on s'en retournait avec un polo, on s'en retournait à l'aéroport. Lui est encore en habit noir, cravate. Il roule avec deux cellulaires, tout le temps deux cellulaires dans l'auto. Il répond à tout le monde en même temps. Et à Port-au-Prince, des sections de Port-au-Prince où on était, je serais pas capable, moi, niveau de conduire un coin de rue. T'es pas capable. Parce qu'il y a aucune lumière, il n'y a aucun feu de circulation, il n'y a aucune ligne. Il y a des milliers d'autos qui s'en viennent. Ils s'en viennent tous. Puis on dirait tous, ils s'en viennent m'attaquer, moi. Ils s'en viennent m'attaquer. Je m'en vais. Tu veux faire un petit coin de rue, puis ils viennent tous m'attaquer. Pourquoi est-ce qu'ils m'en veulent? Tout le monde veut m'attaquer. Tout le monde veut foncer dans moi. Et lui, il roule là-dedans. Il s'en va là-dedans. Il est tellement heureux. C'est le tel gars. Il a tellement de joie, tellement de force, tellement contentement, tellement dans la paix. Et il roule les deux cellulaires qui sonnent en même temps. Et très souvent, deux cellulaires dans Port-au-Prince, ils se retournaient pour nous expliquer des affaires. Ils nous parlaient. Il nous expliquait ça. J'aimerais déclarer qu'il y a une joie, il y a une crainte de Dieu qui produit un contentement que personne ne peut enlever. Applaudissez cette paix de Dieu. Comment vaincre peur de la religion, peur de Dieu, peur de l'Église, peur de la religion? Il faut une compréhension spirituelle, une révélation de la vraie crainte de Dieu. Et vous dites, ben oui, mais pourquoi tu nous as fait lire? Pourquoi tu nous as fait lire le premier miracle? Où ça vient dans tout ça? Bonne question, j'y arrive. Il faut une confrontation sincère avec le religieux. Si tu veux être libéré de la peur de Dieu, des peurs des églises, peurs de religion, il faut que tu sois libéré, il faut que tu confrontes le religieux, même en toi-même. Il faut que tu aies une confrontation qui est là. Et les gens nous demandent souvent, peut-être ça va vous aider, vous avez eu la même question, les gens m'ont souvent posé la question, les gens nous posent souvent la question. On me dit, ils apprennent que je suis pasteur, puis ils vont dire, tu penses-tu qu'il y a juste ta religion qui mène à Dieu? Es-tu la seule religion qui mène à Dieu ou est-ce que toutes les religions mènent à Dieu? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Puis là, tu te sens pris. Si tu réponds, il y a juste ma religion, l'esprit est toi, juste la religion. Et tu sais très bien que ce n'est pas toutes les religions qui mènent à Dieu. Alors maintenant, ce que je réponds à ce que j'en dis, c'est-tu juste ta religion ou toutes les religions qui mènent à Dieu? Je dis non. La bonne réponse, c'est qu'il n'y a aucune religion qui mène à Dieu. Il y a juste une relation personnelle avec Jésus-Christ qui est le chemin et la vie. C'est lui qui mène à Dieu. Et des millions ont découvert cette phrase qui semble paradoxale ici au Québec et dans le monde. J'ai abandonné la religion, mais j'ai trouvé Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et le premier miracle est très, très, très important. C'est le plan de rédemption pour toute l'humanité. C'est le cœur de Dieu qui va être révélé. C'est le plan Père, Fils et Saint-Esprit qui a été préparé d'éternité en éternité pour la rédemption de milliards d'êtres humains et les plans de Dieu pour des millénaires à venir. Et Jésus a dit, tout ce qui se passe pendant ces 3 ans de ministère sur cette terre, tout était selon la volonté du Père. J'ai dit les paroles qu'il m'a données, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Si tout était des étapes du plan parfait préparé par Dieu, alors le premier miracle, le choix du ciel pour le premier miracle qui va être fait, comme on vient de lire dans Jean chapitre 2, c'est là que Jésus fit son premier miracle, que Jésus a changé de l'eau en vin dans une noce. Un mariage comme premier miracle est très significatif. Et le mot « miracle », c'est pas juste quelque chose de surnaturel. Le mot « miracle », c'est « semeion », dans le grec, veut dire « signe ». C'est un signe. Un signe par lequel une personne est connue et distinguée des autres. Par ce signe, vous allez découvrir qui Jésus est et ce qui le distingue. Un signe, un prodige transcendant les lois naturelles et le cours normal des choses. Un signe d'événements remarquables qui s'apprête à prendre place. Un signe de Dieu afin d'authentifier et d'annoncer son royaume. Et comprenez le contexte dans lequel, ne manquez pas ce miracle. Le premier miracle est entre deux événements. Juste avant, vous avez Jésus qui appelle les disciples, un par un, nommant leur nom, en les appelant de vie brisée, d'endroits où ils pensaient qu'ils pourraient jamais s'en sortir. Il appelle des personnes, et encore aujourd'hui, en 2009, il nous appelle par nos noms. D'où que ce soit que tu viens, Dieu t'appelle, il t'appelle à le suivre. Et il y a l'appel individuel à des personnes. Il y a le miracle de l'eau changée en vin. Premier miracle, le signe, Siméon. Il y a tout de suite après, l'ensemble de cet enseignement, il y a Jésus qui confronte le religieux en renversant les tables religieuses dans le temple et qui confronte le religieux en parlant avec Nicodème et en l'appelant, malgré toute sa connaissance religieuse, à une relation personnelle et intime avec Dieu. Il faut que vous compreniez le contexte de cette confrontation avec le religieux. Lorsqu'on pense à une noce, on a eu un magnifique mariage ici. Hier, le pasteur Jean-Olivier a marié sa fille hier, et c'était magnifique. Mais dans le contexte du Nouveau Testament, c'était différent et de l'Ancien Testament, et leur enseignement et la façon de la culture était que lorsqu'il y avait une noce, ça pouvait durer entre 4 et 7 jours. Et lorsqu'on était invité à une noce, c'était un honneur extraordinaire et tu ne pouvais pas refuser, tu allais à la noce. Et c'était la responsabilité d'hospitalité du père, de la famille, de l'époux, d'accueillir. Et c'est toi qui vas pourvoir pour des choses qui duraient parfois 4 à 7, des fêtes qui duraient de 4 à 7 jours. Il y a même un enseignement dans l'Ancien Testament, et certains historiens nous disent qu'il était continué pendant une période de temps, même jusqu'au Nouveau Testament, que lorsqu'un jeune couple se mariait, la responsabilité des parents était, des pères en particulier, lorsqu'un jeune couple se mariait, les familles, pour qu'ils apprennent à se connaître, pour qu'ils soient ensemble, pour qu'il n'y ait rien d'autre à faire que se connaître et découvrir, les familles leur pourvoyaient une lune de miel et un voyage de noces de 1 an. Que pendant 1 an, tu ne travailles pas, tu reviens à la maison, tu es avec ton épouse. Et lorsque je fais le cours de préparation au mariage et que je dis ça aux jeunes couples, ils attrapent rapidement la vision et disent « Oui, moi je veux vivre selon les lois de Dieu, je veux vivre selon le Seigneur. » Et les pères me disent « Es-tu malade? » Alors c'est ce genre de relation comme ça. Et là, il y a une noce, il y a une fête, la réputation, il y a une célébration de vie. Tu ne peux pas avoir plus non-religieux, c'est une fête, une célébration de vie, et on manque de vin. C'est un moment de honte, c'est un moment de trouble, c'est un moment d'agonie pour la famille, c'est un moment d'embarras, et la mère de Jésus vient et dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Il y a ce moment d'embarrassement, et Jésus est totalement dans un mode d'accomplissement. Il parle de son heure qui va venir. Il n'est pas impoli envers sa mère dans la formulation du Nouveau Testament, des textes originaux. Il fait simplement dire, il y a un moment pour mon heure de venir. Et Marie va donner un conseil extraordinaire. Ne soyez pas de ceux qui, parce qu'il y a eu une utilisation ou une théologie abusive donnant à Marie une position qui n'est pas celle des Écritures, ne soyez pas de ceux qui rejetaient tout ce que Marie a à dire dans la parole de Dieu, parce que Marie vous donne ici un conseil extraordinaire. Elle a dit à tout le monde, « Faites ce qu'il va vous dire. » Ce que je peux vous dire, encore aujourd'hui, entendez la voix de Marie qui dit, « Lui, il est le Fils de Dieu, c'est Jésus. Faites ce qu'il va vous dire et tu vas trouver le chemin de la vie encore aujourd'hui. » Faites ce qu'il va vous dire. Et Jésus dit, la parole de Dieu nous dit qu'il fait quelque chose de très, très, très particulier. Il y avait là 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures. Il y avait des vases qui étaient là, mais ce n'est pas des vases. J'ai mis ces vases-là seulement ici pour juste pour que vous ayez quelque chose de visuel, parce que les vases étaient à peu près à cette hauteur-là. Ils étaient immenses, ils étaient énormes. Et ça, c'est des vases qu'on a juste loués d'un fleuriste qui est super fin. Alors, je peux pas les casser, je peux pas les lancer, je peux pas rien faire avec ces vases-là. Mais c'est juste pour vous donner un visuel. Et c'est très, très, très significatif. Parce que Jésus aurait pu utiliser n'importe quel vase. Il avait manqué de vin, alors il y avait des dizaines de vases vides partout. Il aurait pu utiliser n'importe quoi. Il y avait plein de vases vides partout. Mais Jésus fait un geste, un signe avec ce premier miracle, parce qu'il prend ces vases qui étaient des vases religieux, qui étaient utilisés pour les cérémonies. Et c'était d'immenses vases. Chaque vase contenait, selon les historiens, et lorsqu'il dit chaque vase avait 3 mesures, chaque vase contenait 80 litres. Presque, en tout, ça avait 500 litres. C'était capable, ces vases-là pouvaient remplir plus de 2000 coupes de vin. Dites à quelqu'un près de vous, tout un party, dites ça à quelqu'un près de vous. Et Jésus, ces vases-là, tout le monde les avait vus utilisés dans le temple pour des cérémonies religieuses. Où depuis 1000 ans, de génération en génération, les gens venaient au temple et voyaient les prêtres et sacrificateurs se laver les mains, se purifier les mains, verser de l'eau dans les, avec beaucoup de grandiloquence, beaucoup de grands gestes. Ils se purifiaient, se lavaient les mains. Et les historiens, je ne veux pas être vulgaire ou brutal avec vous, mais les historiens nous disent qu'ils pouvaient faire cela pendant des heures et les sacrifices, tout ce qui prenait place, pour sortir du temple et mener des vies de débauche, de mensonge, de dureté, des vies de criminalité, des vies de cruauté horrible, et littéralement se purifier extérieurement dans un exercice religieux pour par la suite, la même main qui est encore humide avec le sang, avec l'eau du rituel, aller commettre des choses qui sont contraires à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Et Jésus a pris l'objet religieux, puis a dit, remplissez-moi cela, et il a changé l'eau, le premier miracle, un signe. Jésus ne venait pas ajouter à la religion. Il a dit, je suis venu abolir le rituel extérieur et je suis venu accomplir le cœur de Dieu. Ce n'est pas un ajout. Essaye pas d'ajouter un petit peu de Jésus par-dessus, un petit peu de religion, changer d'église, changer de toiture, changer de clocher. Non. Je t'appelle maintenant, c'est la fin d'une chose et je t'appelle à une relation personnelle avec moi. Et en allant dans cette noce, il disait, je veux entrer dans ta vie. Je veux être là chaque jour. Je veux être là dans tes peines, avec ta famille, avec tes enfants. Le royaume de Dieu ne sera pas une heure par semaine au temple. Il va entrer dans ta vie et j'ai un vin nouveau pour toi. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir le cœur de Dieu. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases, les vases du sang, les vases qui étaient utilisés dans le temple, les vases qui étaient utilisés pour le sacrifice. Quelques chapitres plus loin, il va aller encore plus loin. Il va littéralement se rendre à une célébration dans le temple, à la fête des tabernacles. C'était une fête qui commémorait Israël dans le désert. Depuis des centaines d'années, et ça durait 7 jours. Et pendant 7 jours, des heures de temps, il se lavait les mains dans les vases. Il cherchait, il y avait tous ces rituels extérieurs devant des milliers qui étaient eux en train de mourir assoiffé. Et Jésus a littéralement été dans le temple. Il est allé s'asseoir parmi eux, puis ça dit que le 7e jour, on présume qu'il était là tout le temps. Je me cherche une place pour m'asseoir, c'est bien plein cette église-là, qu'est-ce qui se passe? Tassez-vous d'une place, moi, m'asseoir à côté de vous, ça sera pas long. Je ne vous dérangerai pas, je vais écouter la prédication avec vous quelques instants. Jésus était au milieu d'eux, puis il n'en pouvait plus. Il était là, la Bible nous dit, le texte apparaît à l'écran, s'il vous plaît, Jean chapitre 7, que le dernier jour, le jour de la grande fête, alors que le rituel prend place en avant, Jésus n'en pouvait plus. Il ne s'est pas levé en disant, excusez un instant, j'ai une annonce à faire. La Bible nous dit qu'il s'est levé, que Jésus s'est mis à crier. Vous avez tous ces rituels extérieurs, mais si quelqu'un a soif, si tu bois de l'eau de la religion, tu auras toujours soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et un rivière coulera dans ton sein. Alors que les musiciens s'approchent, si nous voulons vaincre la peur de l'Église, de Dieu, de ce qui est religieux, il faut une compréhension spirituelle, une révélation. Il faut une confrontation sincère avec ce qui est religieux. Et il faut aussi, je termine avec ceci, c'est la diapo 21, il faut un cœur qui sait reconnaître. Je vais amener ça à nous personnellement, là où nous vivons, parce que c'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus fait. Il fait ce premier miracle et après, il va s'asseoir avec Nicodème. Il va amener ce principe à son cœur. Et il faut un cœur qui sait reconnaître. Et le texte nous dit qu'après qu'il a changé l'eau en vin, le miracle a pris place, qu'on a dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. On ne commencera pas à jouer tout de suite, juste se préparer. Puis, le moins bon, après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le meilleur vin jusqu'à présent. Regardez ça un instant. Lorsque j'ai lu ça, c'est comme un glaive qui m'a transpercé le cœur. Jésus dit, et l'homme, les gens qui étaient là ont dit une chose normale, une chose de la vie, que dans les parties, dans les fêtes, tu donnais un bon vin et les gens s'enivraient, puis par la suite, ils ne savaient même pas ce qu'ils goûtaient. Fait que tu donnais le moins bon vin par la suite. Et moi, à cause que j'ai grandi là-dedans, je pourrais écrire un livre sur les 7 étapes de quelqu'un qui devient saoul. À partir de la bière numéro 1 jusqu'à la bière 24, toutes les étapes, j'ai vu mon père, ses oncles, et malheureusement moi-même. Il n'y avait rien de plus fou et de plus intolérable pour moi lorsque j'étais plus jeune, je ne connaissais pas le Seigneur, que de me retrouver avec mes chums alors qu'eux autres étaient saouls, puis moi je ne l'étais pas parce qu'ils étaient intolérables, les gars. Savez-vous ce que je faisais au lieu de comprendre que je ne connaissais pas le Seigneur? Au lieu de comprendre, ça n'a pas de bon sens d'être avec eux. Regarde comment ils sont niaiseux. Toi, t'es à jeun, eux autres sont saouls. Savez-vous ce que je faisais? Je me saoulais le plus vite possible pour aller rejoindre leur niveau de niaiserie. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que ça fait quelqu'un qui est enivré? Il perd toutes ses inhibitions. Il laisse tomber ses gardes. Il se met à se répéter. En québécois, on dit « à radoter ».
Ouais, on est des chums, hein, nous autres, on s'aime. Hein? T'en souviens-tu la fois que... T'en souviens-tu que... Hey, on se lâchera jamais. Hein?
J'ai pleuré cette semaine dans la prière à la pensée que c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. Dans la Bible, le vin nouveau représente toujours les choses nouvelles que Dieu veut faire. Je peux vous montrer toute la parole de Dieu. Les quatre évangiles disent, par exemple, il faut que le vin nouveau soit... Tu ne pourras pas mettre le vin nouveau... Dans une ancienne outre, parce qu'elle va se déchirer et tout va être répandu et perdu. Il faut que tu reçoives le vin nouveau dans une outre nouvelle. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont connu une période de leur vie, vous et moi, où on a goûté un bon vin avec Dieu. Dieu nous a touchés, puis j'ai un témoignage, j'ai quelque chose que j'ai vécu en Dieu qui est magnifique, qui est merveilleux. Mais j'ai baissé mes gardes. Que je sois enivré par les choses de ce monde, que je sois enivré par n'importe quoi d'autre, tes tentations de ce monde, par mes standards qui baissent et qui baissent et qui baissent. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes réduits en ce moment à juste parler et à répéter les anciennes affaires qu'on a vécues avec Dieu parce qu'il n'y a rien de frais en ce moment aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? À parler des vieilles affaires, à parler des vieux miracles, à parler des choses d'avant, à parler... Parce que Dieu dit, moi, ce que je veux avec toi, c'est qu'aujourd'hui, cette semaine, je veux te donner un vin nouveau. Je t'ai donné un bon vin dans le passé, mais aujourd'hui, je veux te donner, voilà ce qui est différent. Voyez ce qui est différent entre la religion et une relation avec Dieu. C'est que la religion prend un moment qui a été vrai et par la suite fait juste le poursuivre avec du rituel vide de sens. Dieu dit, je t'ai donné un bon vin hier, mais j'ai encore un meilleur vin avec moi aujourd'hui. Je veux te faire vivre des choses plus grandes, une louange plus vraie, une prière plus intense, une repentance, un pardon, des pas de foi. Tu as un bon vin hier, mais combien on soif pour un vin nouveau encore aujourd'hui? Je vais terminer ce message avec une parabole. Une parabole moderne. Dans la Bible, Jésus prenait des paraboles, des situations de la vie courante pour amener une vérité spirituelle. Je voudrais vous amener une parabole aujourd'hui. Et je n'aimerais pas de nom parce que c'est la parabole d'un petit couple de jeunes mariés, peut-être entre 5 et 10 ans, qui sont mariés. Puis je ne donnerai pas de nom. J'ai pensé que je pourrais les appeler. Mais la minute que je dis un nom, il y a quelqu'un dans la salle qui est appelé comme ça puis là, qui va vivre. Ah, non, c'était pas moi. Alors, je vais juste dire le jeune époux et la jeune épouse. Est-ce que vous êtes soulagés? Est-ce que ça va? C'est une jeune épouse qui a un cœur lourd, qui dit à son jeune époux, son mari qu'elle aime. Un jour, elle prend son courage à deux mains, puis elle dit à son mari, mais quelque chose qui ne va plus entre nous, là. T'es pas là, tu me parles pas. Tu t'occupes pas de moi. Avant, on avait des temps super ensemble. Regarde comment est-ce qu'on est aujourd'hui. Puis, il faut que ça change, puis c'est quelque chose qui est perdu, puis il y a une spontanéité, puis il y a une relation, puis il y a une réalité à notre relation qui est perdue. Puis tu fais tes affaires, puis je fais les miennes. Puis le jeune époux est touché, puis il dit, c'est vrai, t'as raison, puis je vais penser à ça, puis je vais changer, je vais faire quelque chose. Et quelques jours plus tard, un mardi soir, l'épouse arrive à la maison, puis elle rentre dans la maison, puis elle est surprise de voir sa petite gardienne, qui prend toujours la même petite gardienne. Ben, elle dit, comment ça que t'es ici, puis qu'est-ce que tu fais ici? Ben, elle dit, votre mari m'a appelé. Elle dit, wow, ben, la première fois qu'il appelle la gardienne. Alors, votre mari m'a appelé, m'a dit que vous sortez à soir. Puis le jeune époux arrive, puis il dit, chérie, va mettre ta plus belle robe, on sort, je t'amène souper. Elle est toute excitée, elle monte en haut, elle descend avec sa belle robe rouge. Et puis lui, il prend par le bras, puis elle est toute contente, puis s'en va dans le toit ensemble, il arrive dans un petit restaurant italien. Puis lorsqu'il rentre, il dit « Bonjour, monsieur, on vous attendait, elle a fait une réservation, elle n'en revient pas. » Elle s'assoit à table, puis il y a une belle carte sur la table, pas une carte Jean Coutu, que le poème est déjà écrit, puis tu signes ton nom, là, une vraie carte que tu composes quelque chose toi-même. Et bon, maintenant, écoutez bien, si vous avez déjà donné une carte Jean Coutu, soyez bénis. Si vous allez souvent au même restaurant, soyez bénis. Si vous mangez du Szechuan le même soir, c'est pas grave. Tout ça, c'est correct. C'est pas de ça que je parle. J'ai une leçon spirituelle qui s'en vient. Manquez-moi pas. S'assoit à table, elle lit la carte. C'est tellement beau. Qu'est-ce que tu as dit? Puis ils se mettent à parler, puis c'est super. Puis ils parlent ensemble, ils ont des conversations, puis ils rient ensemble, puis ils ont un moment de contact super. Puis tout à coup, vers la fin du repas, il sort dans le dessous de la table une belle rose bleue. Là, elle dit, oh, parce qu'il savait que c'était sa rose favorite. Elle, c'est sa rose. Puis lorsqu'il lui donne la rose bleue, elle est tellement contente, elle a tellement d'espoir pour l'avenir. Ça va être qu'il y a quelque chose qui s'en vient dans notre couple. C'est la plus belle soirée de ma vie. Je veux que tout le monde ensemble on fasse. Ah. Arrive à la maison, puis quelques jours plus tard, une semaine passe, mardi soir arrive, puis il pense pas tout de suite. Arrive à la maison, la petite gardienne est là. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, votre mari m'a demandé de venir. Oh, bon, c'est drôle. Ah oh, ben, c'est le fun, hein? On va sortir encore. Fait que la petite gardienne arrive, puis le mari arrive, il dit, chérie, je t'amène manger au restaurant. Ben, c'est le fun, chérie. Il dit, va t'habiller. Mais il dit, mets la même robe que la semaine passée, la robe rouge. Mets la même robe. OK, on va mettre la même robe. Puis lorsqu'il arrive dans l'auto, il arrive au même restaurant. Il l'amène au même resto. Je trouve ça un peu bizarre, là. Il dit, wow, c'est au même restaurant. On arrive à la table, il y a une belle carte. Il ouvre la carte, il écrit exactement la même chose dans la carte. C'est la même carte. Puis là, elle est juste là. C'est étrange, tu sais. Puis d'un coup, ils se mettent à jaser. Puis à n'importe quoi qu'elle parle, il veut toujours la ramener au même sujet que la semaine passée. Parce que c'était tellement beau la semaine passée, tant qu'on l'a vécu ensemble. Est-ce que tu me suis? Puis là, elle est juste mal à l'aise. Elle trouve ça weird. Elle trouve ça juste étrange. Puis tout à coup, à la fin de la conversation, il arrive. Puis vous l'avez deviné. Il lui donne une belle rose bleue. Une belle rose bleue. Là, elle dit, bon, il m'a donné une rose bleue. Il s'en va à la maison. Le reste de la semaine, il ne lui parle pas. Il ne s'occupe pas d'elle. Il n'a aucun intérêt pour elle. Mais le mardi suivant, elle arrive à la maison. La petite gardienne est là. Et le mardi suivant, et le mardi suivant, et le mardi suivant, et le mardi suivant. Est-ce que vous me suivez? Et finalement, la dernière image qu'on a de la jeune épouse, c'est qu'elle est étendue dans son lit. Il y a la petite rose bleue qui est sur la petite table à côté, puis elle pleure. Parce que la petite rose bleue représente le rituel, représente quelque chose qui avait eu un beau moment, mais qui, lorsque seulement répété, devient vide de sens et représente l'absence de relation qu'elle a vraiment avec lui. Et si vous demanderiez à lui comment ça va, il dirait, « Moi, je m'occupe de mon épouse religieusement. » Puis il pourrait même vous donner un séminaire sur la petite rose bleue. C'est comme ça que Dieu se sent. Dieu dit, on a vécu des choses ensemble qui étaient belles, qui étaient vraies, qui étaient spontanées. Mais toi, le reste de la semaine, tu veux faire ta vie, puis juste venir à l'église, puis chanter les mêmes chansons, puis faire les mêmes affaires, puis faire les mêmes choses, puis répéter l'ancien vin, les choses anciennes. Mais moi, je veux ton cœur. Moi, je veux que tu me parles. Moi, je veux vivre avec toi. Moi, je veux te donner un vin nouveau. Et les outres de ton expérience passée, ne peuvent pas contenir ce que je voudrais faire dans ta vie aujourd'hui. Ton œil n'a pas vu, ton cœur ne peut pas imaginer les choses que j'ai préparées pour toi. Elles peuvent être révélées par l'Esprit. Hier, c'était une rose bleue, mais aujourd'hui, je veux faire quelque chose d'autre dans ta vie. Je t'appelle à un vin nouveau. Et Dieu, j'espère que vous êtes avec moi. Je dis, Seigneur, merci pour ce que j'ai vécu avec toi hier, mais je refuse d'essayer juste d'étirer et de perpétuer hier. Je veux une relation de cœur avec mon Dieu. Je veux vivre un vin nouveau. Église Nouvelle Vie, voulez-vous vivre un vin nouveau avec Dieu? Donnez un 10 secondes au Seigneur avec moi. Je vous invite à pencher la tête alors que nous allons aller à la prière ensemble ce matin. Je vais faire un appel très simple. Nous allons chanter ensemble ce chant qui dit, « Me voici à tes pieds. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. » Je vais faire cet appel ce matin et je vais vous demander spontanément de vous lever à votre place si vous dites ce message. Cet appel est pour moi. Oubliez qui est à gauche ou à droite et qui est en avant, en arrière. Oubliez qui vous êtes ou qui vous pensez être dans le sens de comment les gens pourraient vous percevoir. Et chacun d'entre nous ce matin devant Dieu, si vous êtes ici et que cet appel est pour vous, je vous demande de vous lever dans sa présence et de dire, Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Si vous dites, Seigneur, je veux revenir à une crainte devant toi. Je veux revenir à une révérence. Je veux revenir, Seigneur, à embrasser le Fils. Je veux revenir, Seigneur, à cette consultation de Dieu. Cette consolation de Dieu et Dieu qui entre dans ma vie. Dieu qui n'est pas seulement une heure par semaine, quelques fois par mois lorsque je vais à l'église, mais Dieu qui est dans ma vie. Dieu que je consulte, Dieu qui me console, Dieu à qui je ne cache rien parce que rien ne peut lui être caché de toute façon. Dieu à qui j'amène les épines sur le chemin, et j'amène les pièges dans lesquels je suis tombé, les douleurs, le passé, le présent et l'avenir. Si vous êtes ici, vous dites, je veux être rempli d'une nouvelle crainte de Dieu dans le sens de la parole de Dieu. Je veux consulter Dieu, être consolé par Dieu, et je veux embrasser le Fils et l'adorer. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes à vos places. Je veux aussi demander avec beaucoup d'honnêteté, tout simplement, si vous êtes ici, vous dites, je veux confronter le religieux en moi-même. Je ne veux pas offrir une rose bleue du mardi soir à Dieu. Je ne veux pas juste répéter ce que j'ai vécu il y a 5 ans dans ma vie chrétienne ou il y a 10 ans. Je ne veux pas seulement répéter le vin d'hier. Je me suis peut-être enivré, je me suis laissé aller et je répète maintenant le passé alors que Dieu a un vin nouveau pour moi. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, je veux vivre quelque chose de nouveau, de vrai et d'intense avec Dieu, un vin nouveau qu'il a pour moi aujourd'hui. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes dans sa présence et de dire, me voici Seigneur, me voici à tes pieds, me voici à tes pieds Seigneur. Et je veux faire cet appel particulier si vous êtes ici, vous êtes de ceux qui avaient peur. Vous aviez peur de Dieu.
Vous aviez peur de revenir à l'Église, de revenir à vous donner entièrement à Dieu. Vous aviez peur de revenir de servir Dieu, peur de revenir dans l'appel de Dieu, peur de revenir dans ce que Dieu vous appelle à faire. Et vous voulez, vous avez besoin de cette guérison, de dire, Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Je veux vraiment, je veux venir à toi et je veux ce vin nouveau que tu as pour moi. Je veux ce vin nouveau. Tu as dit, si quelqu'un a soif, ben moi j'ai soif. Et je veux être guéri par toi. J'aimerais vous inviter à vous lever. Et le Seigneur qui calme les peurs est dans ce lieu. J'aimerais maintenant inviter toute l'Église à vous lever. Presque tout le monde est debout déjà. Mais est-ce qu'on peut tous se lever ensemble pour joindre nos frères et sœurs? Et pendant que les musiciens commencent à jouer cette mélodie, me voici à tes pieds pour te donner, Seigneur, pour te demander une touche de ta présence. J'aimerais vous inviter à lever vos cœurs et vos mains vers Dieu et à commencer à vous offrir à Dieu partout à travers ce lieu. Hallelujah. Commencez à lui parler partout à travers ce lieu. Je veux un vin nouveau. Me voici.
Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
On peut lever nos cœurs, nos mains vers le Seigneur.
Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
Vois mon désir
de te servir.
Je te donne tous mes rêves, Seigneur. J'ai besoin de vin nouveau.
Je te donne tous mes rêves.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org.